décideur anticapitaliste de cette semaine. Au début de l'émission, je disais E, j'ai laissé un suspense pour savoir ce serait E pour quoi l'abécédaire cette semaine. Finalement, c'est E pour endoctrinement. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Simon. Oui, effectivement, endoctrinement, je me suis dit que c'était c'était une bonne lettre parce que c'est la même lettre qu'éducation aussi. Puis endoctrinement parce que vous allez voir au cours de cette chronique que trop souvent éducation rime avec endoctrinement.
Évidemment. Donc, pour commencer, évidemment, il faut commencer par le début. C'est quoi exactement qu'on entend par endoctrinement?
Par endoctrinement, en fait, au départ, c'était pas péjoratif. Ça a longtemps été défini comme l'acte d'instruire ou encore le processus par lequel on inculque une doctrine, doctrine qui n'était pas à l'origine non plus péjoratif. Donc, on inculque une doctrine, une attitude ou une méthode à des étudiants ou des étudiantes. Mais avec l'évolution de la société, le terme est devenu péjoratif, notamment lorsque la raison cède place à la foi, donc que ce soit une foi religieuse ou une foi, je sais pas moi, dans le dieu, argent ou marché, ou encore à la soumission. C'est à ce moment-là que on parle d'un enseignement qui interdit l'apprentissage ou la connaissance d'une autre perspective ou d'une autre doctrine qui serait jugée fausse ou dangereuse par ceux et celles qui ne sont pas endoctrinés, finalement, qui perpétuent l'acte d'endoctrinement.
Voilà, c'est comme, par exemple, les professeurs de biologie aux États-Unis qui ne veulent pas enseigner la théorie de l'évolution de Darwin.
Très bon exemple. Voilà. Ça, c'est en plus, c'est une négation totale de ce qui est d'une vérité, là. Pour ce qui est du processus, évidemment, parce qu'il faut définir le processus, comment on endoctrine, ça consiste, en fait, à user à répétition avec une donc de divers moyens de pression psychologique, de différents moyens comme par exemple la peur. On peut penser à des trucs comme le terrorisme est partout, ou encore l'espoir, comme par exemple ben faites des sacrifices maintenant et la prospérité viendra, ou encore la culpabilité, c'est-à-dire je sais pas moi, la dette est un fardeau pour les générations futures, donc il faut s'en occuper dès maintenant. Là, on vient parler des pressions psychologiques ou encore par le martèlement indéfini des mêmes affirmations tout le temps, l'entraînement socio-affectif, etc. Et dont le but ultime, finalement, est de court-circuiter les capacités de réflexion critique de ceux et celles qu'on se propose de modifier les pensées, voire la personnalité par l'endoctrinement.
Donc ça, évidemment, on peut penser à l'éducation religieuse. Tout à l'heure, je parlais des débats qu'il y avait par rapport à la théorie de la héliocentrique, par exemple, de la Terre, toutes ces doctrines-là, mais on peut aussi penser à des doctrines contemporaines. Évidemment, ça, c'est un processus. Qu'est-ce que ça cause, ce processus-là?
Oui, effectivement, on peut identifier un individu par certains symptômes pour voir s'il a été endoctriné ou pas. Et donc, l'individu endoctriné se caractérise donc par une série de symptômes. J'y vais comme
ça. Les symptômes cliniques de l'endoctrinement.
Voilà. Donc, difficulté à écouter des opinions différentes, même quand elles sont présentées par des personnes compétentes. Ça peut être aussi de s'entourer. La personne va avoir tendance à s'entourer d'autres personnes qui pensent la même chose qu'elle. La personne va avoir l'impression que le fait d'adopter un point de vue différent pourrait nous faire valoir l'enfer ou d'autres punitions. La personne va avoir besoin de se référer à des amis plutôt qu'à des experts pour résoudre des questions importantes. Et la personne va démontrer une tendance, finalement, à préférer être rassurée plutôt qu'à vraiment prendre conscience de la réalité ou de réalité la réalité nouvelle ou la simple réalité, finalement.
Et si on applique cette étude clinique-là à certaines personnalités publiques, on pourrait l'appliquer à plein de gens qu'on connaît, je suis sûr, mais dans le cas qui nous concerne, peut-être l'appliquer à des personnalités publiques, voire les personnes qui sont aux commandes de notre État ici au Québec.
Mais oui, par exemple, le trio Couillard, Bolduc, Barrette, mais je pense aussi, je sais pas moi, à Coiteux, à l'État-O, tant qu'à faire, pourquoi pas au conseil du patronat ou même à l'ensemble de l'élite économique qui arrête pas de marteler le discours de l'austérité. Excusez-moi, pardon, c'est vrai, je me suis trompée. C'est de la relance économique.
Ah, pardon.
Oui, c'est parce que l'endoctrinement, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. J'ai de la difficulté à me rentrer ça dans la tête.
Ouais. Il y a des gens qui sont peut-être plus immunisés que d'autres à l'endoctrinement.
Pour revenir, donc ça c'est l'endoctrinement en général, évidemment. Pour faire le lien avec l'éducation, je vous amènerai un peu d'histoire là par rapport à endoctrinement et éducation. Bon, évidemment, on l'a dit, l'éducation, idéalement, c'est de contribuer à rendre libre, autonome et capable de penser par elle-même une personne. Tandis que, endoctriner, comme on l'a vu, c'est exactement l'inverse. Si on remonte à l'origine des écoles publiques, par exemple aux États-Unis puis en Angleterre, on voit que leur but était essentiellement d'habituer les enfants à la discipline du travail. Les enfants étaient séparés de leur famille pour effectuer une série de tâches, sous la direction toujours d'une figure d'autorité, évidemment.
En général, cléricale.
En plus, et selon un horaire très, très, très précis. Tu sais, faut pas laisser le temps aux enfants de réfléchir. Faut toujours les guider d'un sujet à l'autre et de les encadrer le plus possible. Ensuite, ben, il y a le mouvement de réforme scolaire des années 1830-1840, lui aussi visait à former le caractère moral des élèves qui devaient se soumettre, évidemment, à l'autorité, travailler dur et exercer la maîtrise de soi. Donc, l'objectif clé, finalement, de l'éducation devait être de pousser les élèves à s'auto-discipliner et donc à leur mettre un genre de flic dans la tête, si on veut. Mais si on revient au Canada, c'est sûr que quand on parle d'histoire de l'éducation, on peut pas passer à côté de l'histoire des pensionnats autochtones ou des écoles résidentielles, ces institutions de scolarisation, d'évangélisation, mais surtout d'assimilation, des enfants autochtones. Cette pratique, qui était un véritable génocide culturel, avait pour but avoué de, j'ouvre les guillemets, tuer l'Indien dans l'enfant. C'est tiré de la loi sur les Indiens. Ce qu'on faisait, c'était assez simple. On enlevait les enfants de leur réserve, on brûlait leurs vêtements traditionnels, on leur coupait les cheveux, puis on leur interdisait de parler leur langue sans, sous peine de châtiment corporel.
Assez violent comme approche.
Non, mais c'était vraiment là, c'est plus que la carotte et le bâton, là, c'est juste le bâton.
C'est juste le bâton.
C'est ça. Même qu'en 1945, le gouvernement fédéral a même cessé de verser les allocations familiales aux parents dont les enfants ne fréquentaient pas l'école. Et je rappelle que ces pensionnats ont existé des années 1820 jusqu'à 1996, quand même.
Il y a à peine 20 ans.
Voilà.
Puis bon, là, on parle de l'histoire de l'endoctrinement qui est directement attachée à celle de l'éducation. Mais on le voit, puis on en parlait, même les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État sont endoctrinés. Donc, l'endoctrinement, c'est aussi une réalité contemporaine. Comment ça s'inscrit dans l'éducation aujourd'hui?
Dans l'éducation, ça... Puis là, j'ai plus parlé de l'éducation des enfants, mais là, je vais rentrer à la fois... Je vais donner des exemples à la fois d'éducation des enfants, mais aussi l'éducation des bon jeunes adultes là secondaire, université et cégep. On peut donner l'exemple de l'enseignement de l'histoire par exemple. On enseigne l'histoire officielle évidemment, hein, celle qui plaît à l'élite, l'histoire des gagnants de l'histoire finalement. On valorise par exemple la colonisation, c'est-à-dire que les colonisateurs ce sont des découvreurs, des héros et non des meurtriers ou des pilleurs ou des génocidaires. Et on démonise les Autochtones, qui sont montrés, eux, comme des espèces de barbares sanguinaires. Et évidemment, on tait certaines réalités de l'histoire, c'est-à-dire on tait le génocide des peuples autochtones, mais on tait toute l'histoire de l'esclavage également. Une autre chose dont on ne parle pas dans l'enseignement de l'histoire, ce sont toutes les luttes populaires qui ont eu lieu justement à travers les époques, que ce soit les luttes des femmes, le mouvement ouvrier, mouvement pour les libertés civiles. Également, on peut penser à l'éducation selon le genre, hein, c'est-à-dire que les garçons sont incités à agir comme des garçons, puis les filles, ben, comme les petites filles. On peut penser également à l'initiation à l'économie, qui commence très tôt. On peut donner l'exemple des caisses des jardins dans les écoles primaires, où on initie les enfants à l'épargne et à la notion de budget. Bon, ça peut sembler noble, là, mais moi, j'ai un petit peu de difficulté à croire que des enfants, je sais pas, moi, de 7-8 ans, je veux dire, l'argent, ils apprennent où? Bien, évidemment, ils apprennent des parents. Mais les parents, ils donnent pas de l'argent gratuitement comme ça. Ben non, ça se mérite. Donc, on apprend aux enfants à mériter ce qu'ils gagnent, à travailler pour leur argent, et ça, très, très tôt. Puis on le sait, hein, le travail, c'est de l'esclavage salarié. Donc, on inculque ça très tôt chez les enfants.
Et peut-être on peut terminer en parlant de comment l'école est aussi un espace d'endoctrinement pour une espèce de logique entrepreneuriale, hein, de concevoir l'éducation finalement comme une façon de construire, de former des cerveaux à propre à l'entreprise. Donc, peut-être en terminant là-dessus.
Bien, évidemment, comme je le disais, le but noble de l'éducation, normalement, c'est de contribuer à rendre des personnes personnes libres, autonomes, capables de penser par elles-mêmes. Mais aujourd'hui, l'éducation a davantage pour but de former des travailleurs, travailleuses, qui vont répondre à des travailleurs, travailleuses spécialisés qui vont répondre aux besoins des entreprises. Donc, exit les programmes ou les cours généraux, telle l'histoire, la philosophie, la politique. L'école n'est donc plus humaniste, mais bien productiviste. En terminant, peut-être que je pourrais vous donner quelques suggestions de lecture. Si vous voulez un peu
poursuivre la réflexion,
il y a Éducation et liberté de Normand Baillargeon qui a été publié chez Lux Éditeur, qui parle en fait du travail de penseurs anarchistes dans l'histoire en éducation, donc tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il y a également, on va y aller dans les classiques, Une société sans école de Ivan Illich qui a été publié au Seuil. Émile ou de l'éducation, un incontournable de Jean-Jacques Rousseau, Flammarion, qui est tout l'héritage des Lumières, évidemment. Savoir-vivre à l'usage des enfants de Erasme, on remonte à très loin, qui a été publié chez Arléa. Il y a également un autre incontournable, encore plus classique et plus vieux, La République de Platon. Puis finalement, pour y aller peut-être avec au moins une femme dans cette série de lectures, je vous suggérerais une analyse un peu plus large, éducation versus société et culture. Donc l'ouvrage s'intitule La crise de la culture et c'est de Hannah Arendt chez Gallimard.
Alors tout ça, c'était le programme de l'abécédaire anticapitaliste de la claque ce mois-ci. Merci beaucoup, Marielle.
Ben, merci à toi, Simon.
Et puis évidemment, on parle de persévérance scolaire, on parle d'échec ou de réussite scolaire. Et puis cette semaine, je me suis dit pourquoi ne pas réfléchir à la réussite scolaire ou à l'échec scolaire comme étant plutôt l'échec de l'école. Pour en parler, j'ai en studio Yves-Marie Abraham qui s'est joint à nous et Marie-Ève qui est encore avec nous finalement pour continuer cette réflexion sur l'école. Et puis je m'inspire d'un article Yves-Marie a écrit dans le dossier de la revue À Bâbord du mois d'octobre dernier sur l'éducation, un article intitulé Trop d'école tue l'école. Yves-Marie Abraham, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue ici tout près à HEC Montréal. Vous connaissez donc l'éducation de près. Dans votre article, vous revenez sur les problèmes qui minent la capacité de l'école à dispenser une éducation émancipatrice. Hein, c'est le thème du dossier de la revue Relations. Votre premier constat, c'est que l'institution scolaire telle qu'elle existe actuellement contribue davantage à reproduire les inégalités sociales qu'à les réduire, en fait. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour arriver à cette conclusion-là que finalement l'école reproduit les inégalités beaucoup plus qu'elle ne favorise l'émancipation des enfants?
D'abord, Simon, juste une précision, c'était pas dans À Bâbord, mais dans Relations, l'article.
Désolé.
Faut rendre à mes amis de Relations leur dû. Ça, en fait, c'est pas très original en sociologie, hein, toutes les études en Occident sur les ressorts de la réussite scolaire montrent que, finalement, c'est la naissance qui reste très largement décisive en matière de réussite scolaire. Donc, on est dans un monde qui prétend qu'on s'est affranchi de hiérarchie sociale qui serait due à la naissance. Ça c'est le mythe libéral, hein. C'est celui dans lequel on nous éduque. Dans les faits, la naissance est décisive en matière de réussite scolaire. Or, compte tenu de la place aujourd'hui qu'occupe la scolarisation et surtout les diplômes dans notre monde, évidemment c'est crucial, hein, c'est crucial et c'est donc une injustice profonde. Ce que je trouve absolument scandaleux, et enfin j'ai mis du temps à réaliser à quel point c'était scandaleux, c'est que c'est qu'en même temps l'institution fonctionne sur une idéologie qui est l'idéologie du mérite, éventuellement l'idéologie du don. Donc en fait celui qui réussit, c'est celui qui a travaillé, c'est celui qui éventuellement est doué, quoi. Donc par contre celui qui échoue est celui qui a mal travaillé ou qui n'a pas de don, en fait celui qui est con, on va dire un peu. Bon, et là il y a vraiment quelque chose de scandaleux, et puis je trouve que parfois mes collègues enseignants le critiquent pas suffisamment. C'est que prenons l'âge féodal, le cerf au Moyen Âge, bon, il est dans la merde, il sait que c'est pas de sa faute, hein, c'est sa naissance qui fait que il est dans la merde. Bon, donc au moins il vit pas avec cette conviction que il est responsable de sa situation. Alors que aujourd'hui le jeune qui décroche au secondaire, qui se retrouve perdu dans la rue à déconner, etc., en plus il a cette sanction de toute la société sur ces, et qu'il a intégré. C'est-à-dire, je suis là parce que je suis un mauvais garçon, en fait. Je suis un mauvais garçon, ou une mauvaise fille. Mais c'est ma faute. Alors que c'est pas sa faute. C'est là où il y a vraiment quelque chose de profondément vicié et vicieux dans ce système-là.
Donc, ouais, c'est l'espèce de mythe du self-made man.
Absolument, ouais.
En fait, vous, dans l'article, vous soulignez que l'école de plus en plus tend à délivrer des savoirs standardisés, des savoirs préfabriqués qui ne tiennent absolument pas compte des capacités des élèves, ni de leurs préoccupations ou de leurs aspirations. Et puis ça fait peut-être un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation comme forme d'endoctrinement, finalement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut expliquer l'incapacité de l'école à prendre en compte les besoins des élèves?
Bah, c'est-à-dire qu'on lui demande aussi quelque chose de très difficile, c'est de prendre en charge effectivement des quantités énormes d'élèves, donc on ne peut avoir qu'un traitement industriel en fait de ça, donc forcément standardisé. Donc par rapport à ce que disait Marie-Ève sur les finalités de l'éducation, c'est en fait d'emblée pratiquement perdu d'avance. Enfin, c'est-à-dire comment développer ces capacités d'autonomie dans un cadre comme celui-là, qui en fait ne peut fonctionner que effectivement s'il standardise et s'il délivre en masse des savoirs qu'il va falloir ingurgiter et puis régurgiter dans des examens. Donc en fait on est un peu coincé, je dirais même pour des raisons des raisons quantitatives. En fait, l'école obligatoire, elle est forcément industrielle, et donc on tombe sur une des limites de l'industrialisation, quoi, qu'on voit pour n'importe quel autre service, en fait.
Évidemment, cette logique d'industrialisation, j'imagine que pour l'analyse anticapitaliste de l'école, ça doit être porteur de.
Ben juste d'ailleurs avec la réforme, je veux dire, ça s'arrange pas, ça s'arrangera pas avec ce que vous venez de décrire avec la réforme de l'éducation qu'on s'apprête à faire, à encore mettre plus d'élèves par classe. Les profs sont rendus à gérer des quantités. Non seulement ils sont à gérer quantités phénoménales de savoir et d'information, mais là, je veux dire, on s'en va de plus en plus vers une standardisation vraiment. Ouais, et puis évidemment dans ce cas-là, il faut sanctionner les comportements dits déviants entre guillemets là, parce qu'on peut plus, si tout le monde doit être pareil, ben évidemment faut contrôler d'une certaine façon. Donc c'est là que rentre la médicalisation, le surdiagnostic de TDAH.
Puis la conception de l'école finalement comme une espèce de prison, et puis les récents événements là, de cette semaine au sujet des fouilles dans les écoles posent toute cette question-là finalement de quel espace devient l'école obligatoire dans ce contexte-là.
Ouais, peut-être pour réagir à ce que disait Marie-Ève, effectivement dans ma critique de l'école, il faut faire attention parce que je peux donner l'impression de taper sur des amis qui essayent de la défendre aujourd'hui contre ce que tente de faire le gouvernement néolibéral, qui est alors là le comble de l'horreur. Enfin bon, donc on est d'accord que ce qu'ils sont en train de faire ne va faire que empirer tout ce que je tente de décrire dans ce petit texte là. Donc il faut pas se tromper. Ce qui se joue actuellement est vraiment le pire du pire, hein, cette espèce de privatisation. Cette école à deux vitesses où on va avoir le privé pour les privilégiés, le public pour les immigrants, pour les rejects, etc. Enfin, là, on est complètement en rupture avec le modèle quand même d'une éducation qui serait publique pour tous, qui viserait à essayer de former des citoyens responsables. Là, on est vraiment dans le laisser-aller total. Donc là, il y a vraiment une dérive très, 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 très grave actuellement en plus. Mais la critique que je fais, en fait, elle est plus ancienne, elle est plus fondamentale. Et puis Marie-Ève a cité tout à l'heure Ivan Illich, qui est à mon avis vraiment une des références les plus intéressantes sur ce plan-là. Hein. C'est-à-dire que dans sa conception même, cette institution, au-delà même des moyens dont elle pourrait disposer, etc., est-ce qu'elle n'est pas problématique? Est-ce qu'elle n'a pas tendance à être finalement contre-productive, c'est-à-dire à faire l'inverse de ce qu'elle est censée faire au départ?
Et donc, vous appelez dans votre article, un très court texte hein, qui pose beaucoup de questions, qui propose quelques pistes, vous appelez à repenser l'éducation d'une manière beaucoup plus large, hein, en dehors ou en dépassant le cadre scolaire. Et vous le soulignez, cette transformation de l'école ne peut pas s'envisager sans une transformation plus radicale de la société à grande échelle. Peut-être en terminant, je vous lancerai la question à tous les deux. En quoi est-ce que l'échec de l'école dont on parle actuellement est le reflet finalement de l'échec d'un certain mode de développement de notre société post-industrielle?
Ben, pour faire un lien là aussi avec mes amis anticapitalistes, il faut quand même voir que l'école obligatoire, elle est instaurée en plein 19e siècle, et on peut la voir vraiment comme une création de ce modèle de société, comme une prise en charge et une préparation des enfants effectivement à être de futurs travailleurs dociles en fait. Donc mais ça suppose, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est aussi parce qu'on a commencé à mettre au travail leurs parents, hein, et donc c'était des enfants qu'il fallait prendre en charge, mais aussi les rendre utiles, comme dirait Foucault, hein, on les dresse pour les rendre utiles au capitalisme. Donc c'est sûr que si on veut se débarrasser de l'école, il faut se débarrasser de ce qu'il a généré, c'est-à-dire de ce capitalisme, et notamment de cette relation de base qu'est le salariat. Donc on peut pas vraiment penser la fin de l'école sans penser la fin du salariat. C'est vraiment indissociable, comme toutes nos grandes institutions, elles sont interdépendantes. Ouais.
Une réaction là-dessus,
Marie-Ève? J'aurais pas pu mieux répondre. Je suis tout à fait d'accord.
très flatté d'avoir le compliment de Marie-Ève.
Ben, merci beaucoup, Yves-Marie Abraham, d'avoir été avec nous. Merci, Marie-Ève, d'être restée. C'était fort intéressant.
Merci beaucoup de m'avoir invité.